Vous écoutez, on lit pour vous.
Les Fruit Loops d'ici, sont-ils meilleurs que ceux des États-Unis? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 novembre 2024 dans la presse. Pourquoi, dans ce pays, les Fruit Loops contiennent-ils 18 ou 19 ingrédients, alors qu'au Canada, il n'y en a que 2 ou 3? Robert F. Kennedy Jr., nouvellement nommé par Donald Trump pour devenir secrétaire à la santé aux États-Unis, en entrevue à NBC. D'abord, les Fruit Loops ne contiennent pas 18 ou 19 ingrédients aux États-Unis, ni 2 ou 3 au Canada. Dans les deux pays, les céréales multicolores sont fabriquées de 27 ingrédients et entrent dans la catégorie des aliments ultra-transformés. Cette longue liste d'ingrédients diffère toutefois d'un pays à l'autre. Au Canada, Kellogg's utilise du jus de carotte, du melon d'eau, du curcuma et des bleuets pour donner des couleurs aux petits anneaux. Aux États-Unis, les Fruit Loops sont faits de colorants appelés rouge 40, jaune 5, jaune 6 et bleu 1. Or, ces colorants artificiels sont interdits dans certains pays d'Europe, mais pas aux États-Unis. Ils sont aussi autorisés au Canada, mais Kellogg's n'y recourt pas pour iriser ses Fruit Loops. En octobre 2024, la Californie est devenue le premier État américain à les interdire, dans les repas servis dans les cantines scolaires. Que sait-on de leurs effets sur la santé? Ces colorants peuvent entraîner le trouble du déficit d'attention et d'hyperactivité, TDAH, et l'inflammation des intestins chez des animaux génétiquement prédisposés à ces deux problèmes, ont montré des études, indique Borhan Anabi, professeur de biochimie à l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche sur la prévention et le traitement du cancer. Chez l'humain, l'inflammation excessive des intestins peut mener à la maladie de Crohn, à la colite ulcéreuse ainsi qu'à d'autres maladies inflammatoires intestinales, MII. Les gens qui sont génétiquement susceptibles au TDAH et au MII devraient donc éviter ces colorants par précaution, même si les études animales n'ont pas été transposées chez l'humain. Au Canada, environ 1 personne sur 1000 a une MII et 1 adolescent sur 8 a un TDAH, et une certaine partie de ces cas sont d'origine génétique. Puisque ces colorants alimentaires n'ont aucune propriété nutritionnelle, devrait-on les éviter en tout temps? Borhan Anabi nous répond « Leur seule utilité est de rendre les produits transformés plus attrayants, par exemple, en mimant la couleur de certains fruits connus pour avoir des effets positifs sur la santé. » Dans plusieurs cas, les colorants servent à masquer la pauvreté nutritionnelle des aliments industriels, ajoute-t-il. Et en comparaison avec les autres impacts des Fruit Loops sur la santé. Les colorants artificiels américains jouent un rôle mineur dans le bilan nutritif négatif des Fruit Loops, souligne aussi Stéphanie Chevalier, nutritionniste à l'Université McGill. Franchement, dit-elle, que les colorants soient naturels, ça n'améliore pas du tout la qualité nutritionnelle des Fruit Loops. Ce n'est pas un bon aliment à la base. Comme beaucoup d'aliments ultra-transformés, les Fruit Loops sont fabriqués avec un procédé d'extrusion qui transforme les céréales en pâte. Cette pâte est ensuite sucrée et cuite. Le premier ingrédient des Fruit Loops est d'ailleurs le sucre, souligne Mme Chevalier. La consommation d'aliments ultra-transformés entraîne un plus haut risque d'obésité et de maladies métaboliques comme le diabète. Il n'est pas clair si c'est lié à une plus grande consommation de calories parce que ces aliments sont digérés rapidement ou à un problème spécifique de traitement des aliments ultra-transformés par les différents organes du corps humain, selon Mme Chevalier. Est-ce que les aliments ultra-transformés sont aussi dans le collimateur de RFK Jr.? Le neveu du président John F. Kennedy a plusieurs fois dénoncé la malbouffe, junk food. Il a qualifié les menus de l'avion de campagne de Donald Trump, du McDonald's et du poulet frit KFC de poison. Mais il s'est aussi fait prendre en photo en train de manger du McDonald's avec le président désigné dans son avion. Robert F. Kennedy Jr. est-il hypocrite? Politicologue de l'Université Harvard, spécialiste de la politique de la viande, Sparshasa estime que la photo de RFK Jr. mangeant du McDonald's est un problème si elle est vue comme un appui à McDonald's. Elle pense toutefois que la plupart des gens savent qu'un repas chez McDonald's n'est pas un repas santé et que cette photo est une occasion d'avoir une discussion concernant nos attentes au sujet des leaders que l'on veut parfaits. En savoir plus, source Appetite. 24%. Proportion des calories dues à la consommation des aliments ultra-transformés chez les 20% de Canadiens qui en consomment le moins. 76%. Proportion des calories dues à la consommation des aliments ultra-transformés chez les 20% de Canadiens qui en consomment le plus. C'était « Les Fruit Loops d'ici sont-ils meilleurs que ceux des États-Unis? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 novembre 2024 dans La Presse.
Les étudiants adorent l'intelligence artificielle, mais... Un texte de Samuel Larochelle, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse. Quelques 6 étudiants canadiens sur 10 utilisent l'intelligence artificielle, IA, générative pour faire leurs travaux scolaires, selon une récente étude de KPMG. Si les nouvelles technologies aident les travailleurs de demain, elles leur donnent aussi l'impression d'apprendre moins et de tricher. L'IA s'implante. Les étudiants utilisent l'IA pour générer des idées, 46%, effectuer des recherches, 41%, réviser des travaux, 38%, résumer des informations, 36%, rédiger des textes, 32%, ou passer des examens, 24%. On voit beaucoup de gens utiliser l'IA pour faire le brouillon d'un travail qu'ils vont ensuite réviser, pour résumer de longs documents ou pour extraire les points essentiels d'une chaîne de courriel, explique David Marotte, leader au Québec de la pratique de données et intelligence artificielle chez KPMG. Tricherie ou pas? L'IA gagne en popularité, mais elle n'est pas totalement assumée. Selon l'étude de KPMG, 65% des étudiants ont l'impression de tricher lorsqu'ils l'utilisent. M. Marotte croit qu'ils auraient intérêt à l'accepter et à la nommer. Les établissements scolaires doivent moderniser leur approche et mettre des règles claires pour déterminer dans quel contexte on peut utiliser l'IA. La transparence est super importante. Cela dit, les travailleurs utilisent déjà ces technos pour accélérer leur travail. Alors pourquoi les étudiants pensent-ils tricher? Oui, mais la plupart des étudiants disent que l'IA générative améliore la qualité de leurs travaux. Elle permet une accélération de la consommation de la connaissance importante. C'est un outil hyper puissant pour les étudiants et le monde du travail, explique-t-il. Cependant, plus des 2/3 des étudiants admettent apprendre moins et retenir moins de connaissances. Quand on lit un contenu dans lequel on s'immerge, on est davantage capable de le résumer et d'identifier les points importants, car toute notre attention y est vouée. L'objectif, selon David Marotte, est d'utiliser l'IA en améliorant son sens critique. On doit apprendre à accueillir cette connaissance, à utiliser son jugement, à l'analyser et à consulter différentes sources d'informations pour avoir une compréhension plus complète que si on consommait la connaissance de façon traditionnelle. Cerveau paresseux? Si l'IA fait une immense partie du travail, il est possible que la capacité de rétention du cerveau diminue. Dans n'importe quoi, il faut trouver un équilibre pour ne pas dépendre seulement de la technologie, affirme M. Marotte. Avec les jeunes, je priorise l'éducation sur la façon de l'utiliser, quels sont les risques, les bénéfices et comment conserver un équilibre mental. Il dresse également un parallèle avec l'avènement de la calculatrice dans la vie des étudiants. Sommes-nous devenus moins bons en calculs mentaux? Ou avons-nous plutôt accéléré notre progression avec ces outils? David Marotte croit que l'IA permet non seulement d'accélérer le travail, mais également d'avoir accès à des compétences technologiques et de devenir plus polyvalent. Il croit aussi que de nouveaux emplois et compétences apparaîtront. Ce sera une période d'adaptation pour les gestionnaires, comme lorsque l'Internet est arrivé dans nos vies. C'était « Les étudiants adorent l'intelligence artificielle, mais... » un texte de Samuel Larochelle, paru le 5 novembre 2024 dans La Presse.
Dépistage et diagnostic du VIH, Toronto, toujours en tête. Un texte de Soufiane Chakouche, paru le 8 novembre 2024 dans L'Express. SIDA, quatre lettres qui, dans un temps où les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, faisaient frémir de peur rien qu'à les entendre alignées de la sorte. Depuis, l'eau de la science a bien coulé sous les ponts, au point que le virus n'est quasiment plus transmissible, du moins dans les pays développés comme le Canada et dans les grandes villes comme Toronto. Toutefois, cela n'empêche pas la ville reine de continuer à enregistrer en Ontario le taux le plus élevé de diagnostic de VIH, le virus du sida. Tout d'abord, j'aimerais faire une petite rectification. On ne parle plus du sida depuis plusieurs années parce que le sida était une complication de la maladie qui résultait du virus. Maintenant, on parle de gens infectés par le VIH ou à risque de l'être, corrige d'emblée Normand Babin, directeur général intérimaire d'Action positive VIH-SIDA, un organisme francophone à but non lucratif, œuvrant dans la grande région de Toronto et le centre sud-ouest de l'Ontario. Mais à culpa, il faudrait peut-être penser à le retirer également du nom de l'organisme. Femme séropositive, bébé négatif. Plus sérieusement, si ce virus est de plus en plus sous contrôle, il n'en demeure pas moins qu'une légère recrudescence a été observée par les spécialistes, y compris à Toronto. Les chiffres sont en légère augmentation, mais ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne le sait pas vraiment. Parce que les médicaments qu'on a aujourd'hui sont actifs et efficaces au point où le virus, chez les personnes qui les prennent, devient indétectable, précise Normand Babin. Et à partir du moment où la personne est indétectable, elle ne peut plus transmettre le virus. C'est ainsi, par exemple, qu'une femme qui serait séropositive peut avoir un enfant qui, lui, est séronégatif. La personne qui serait séropositive dans un couple ne devrait pas infecter la personne séronégative. C'est bien là que réside la grande révolution dans le domaine. Toronto championne toute catégorie. Toutefois, demeurant dans la même tendance observée durant les dernières années, Toronto occupe toujours la tête de la province en termes de taux de dépistage et de taux de diagnostic. En effet, selon un rapport de l'OHESI, Ontario HIV Epidemiology and Surveillance Initiative, publié en novembre 2023, Toronto a enregistré entre 2017 et 2021 un taux moyen de dépistage du VIH par 1000 habitants de 69,6, loin devant les 41,1 de l'ensemble de la province. Plus significatif encore, durant la même période, la ville Rennes a affiché le taux moyen de premier diagnostic de VIH chez les hommes le plus élevé de l'Ontario, avec 19,6 par 100 000 habitants, contre une moyenne provinciale masculine de 6,8. Les nouveaux visages du virus. Par ailleurs, cette tendance semble être accompagnée par un léger changement des profils des populations, tout en gardant des dénominateurs communs, comme l'explique Normand Babin. Le profil de la population porteuse du virus au Canada change un peu à travers les années. Il y a, par exemple, de nouveaux arrivants pour lesquels le VIH peut être une raison pour venir au Canada parce qu'on y trouve facilement les traitements et gratuitement. Il y a aussi de nouveaux arrivants qui viennent de pays où leur homosexualité n'était pas acceptée. Donc, quand ces personnes ne sont pas bien informées, ils peuvent prendre toutes sortes de risques et, malheureusement, parfois ça donne de nouveaux cas. Équité en santé. De son côté, Marie-Ève Ayotte, directrice des services de soins primaires, santé mentale et développement de l'enfance au Centre francophone du Grand Toronto, CFGT, ne semble pas souscrire à ce constat. Cette question est préjudiciable pour les nouveaux arrivants au Canada. Le VIH ne discrimine pas de population. Le centre travaille dans une approche inclusive de réduction des méfaits et de santé communautaire, insiste-t-elle. Cela étant dit, plusieurs questions se posent lorsqu'il s'agit d'équité en santé. Est-ce que toutes les communautés ont accès à des soins? Est-ce que le dépistage est équitablement accessible? Est-ce que la sensibilisation et l'éducation en matière de maladies transmises sexuellement et par le sang sont accessibles à tous les milieux socio-économiques et socio-démographiques? Population stigmatisée. C'est bien là où le bât blesse. En effet, selon le gouvernement ontarien, le VIH est principalement resté cantonné dans certaines populations. Il s'agit des hommes gays, bisexuels et autres, qui ont des rapports sexuels avec des hommes, y compris des hommes trans, des personnes des populations africaines, caribéennes et noires, des autochtones, des consommateurs de drogue et des femmes cis et trans, y compris celles provenant des communautés ci-dessus, qui sont confrontées à des inégalités systémiques et sociales et qui sont plus susceptibles d'être exposées au VIH par l'intermédiaire d'un partenaire sexuel ou d'un consommateur de drogue, peut-on lire sur la page du ministère de la Santé. Le document rappelle aussi que ces populations sont également confrontées à la stigmatisation, à la discrimination et à d'autres obstacles liés aux déterminants sociaux de la santé, tels que la pauvreté, l'instabilité du logement, la violence entre partenaires intimes et les traumatismes associés à l'homophobie, au racisme et à la colonisation qui peuvent les rendre plus vulnérables à l'infection par le VIH et affecter leur capacité à accéder aux services. En somme, combattre le VIH, c'est combattre aussi et d'abord toutes ces injustices sociales et ces inégalités, mère de tous les maux. C'était « Dépistage et diagnostic du VIH, Toronto toujours en tête », un texte de Soufiane Chacouche, paru le 8 novembre 2024 dans L'Express.
quand l'éducation à la sexualité se transporte en cours supérieur. Un texte de Zacharie Goudreau, paru le 14 novembre 2024 dans Le Devoir. Un père de famille qui avait vu sa demande d'exemption pour sa fille d'un cours sur l'identité de genre pour des motifs religieux être rejeté en 2023 par la direction d'une école de Montréal s'est par la suite tourné vers la Cour supérieure du Québec qui a entendu sa cause à la mi-novembre 2024. Une saga qui survient au moment où des parents se mobilisent contre l'éducation à la sexualité qui polarise. Plus d'une vingtaine de citoyens se sont déplacés au palais de justice de Montréal pour montrer leur soutien à ce père de famille, ce qui a forcé le déplacement de l'audience, d'abord prévue au deuxième étage de l'établissement, dans une salle plus grande située au 15e étage. L'audience s'est étirée de 9h30 à 15h30 et a été marquée par plusieurs sonneries de téléphones cellulaires qui ont incité la juge Eleni Yannakis à mobiliser un constable spécial en après-midi pour veiller au bon déroulement des procédures judiciaires. Le plaignant dans cette affaire avait effectué en 2023 une demande d'exemption d'un cours sur l'identité de genre pour sa fille, qui était alors en sixième année du primaire dans une école du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, CSSMB. Le Devoir a décidé de conserver l'anonymat du père pour ne pas causer un préjudice à l'enfant. Le père, d'origine algérienne et de confession musulmane, avait effectué cette demande d'exemption en invoquant ses croyances religieuses, mais celle-ci lui a été refusée par la direction de l'école de sa fille. Le plaignant s'est ensuite tourné vers le protecteur national de l'élève, en vain, avant d'entamer un recours devant les tribunaux contre le CSSMB. Il y a une coordination de tous les paliers institutionnels pour empêcher la primauté parentale, a lancé au Devoir le père de famille, qui entend continuer de réclamer, chaque année, que sa fille soit exemptée de certains contenus d'éducation à la sexualité jusqu'à ce que celle-ci ait terminé son parcours secondaire, qu'elle a entamé cette année dans une école de Montréal. À ce pourvoi en contrôle judiciaire, l'avocate du CSSMB, Lucie Roy, a répliqué que ce recours est irrecevable, selon elle, puisqu'il n'aurait pas été entamé par le demandeur dans un délai raisonnable. Elle a aussi fait valoir que les critères de cette démarche ne sont plus valides puisque les cours d'éducation à la sexualité sont intégrés depuis le 1er juillet 2024 dans le Programme de culture et citoyenneté québécoise, CCQ. Il n'est désormais plus possible pour des parents d'effectuer une demande d'exemption des contenus en matière d'éducation à la sexualité offerts dans le cadre de ce programme, au primaire comme au secondaire, y compris ceux portant sur l'identité de genre, a souligné Maître Roy. La demande du plaignant devient ainsi « théorique », a affirmé Maître Roy, qui a tenté avec cet argument de convaincre la juge Eleni Yannakis que le recours judiciaire du père de famille ne devrait pas être analysé sur le fond. « Ce que vous demandez, c'est le rejet du recours », a résumé la juge qui a décidé de prendre sa décision en délibéré. Un vent de face pour l'éducation à la sexualité. Selon l'avocat du plaignant, Frédéric Quintal, l'arrivée du programme CCQ ne rend pas caduque la demande de son client. Le CSSMB a d'ailleurs confirmé au Devoir qu'il est toujours possible pour un parent qui allègue qu'un enseignement en matière d'éducation à la sexualité contrevient à ses croyances religieuses de présenter une demande d'accommodement pour un motif religieux. C'est avec ces nouveaux paramètres que les demandes des parents sont maintenant analysées, a indiqué l'organisation par courriel. Ainsi, ce n'est pas parce que la réglementation change que l'essentiel du débat change pour autant, a fait valoir Maître Quintal en entrevue au Devoir. Ça s'inscrit dans un contexte où il y a de l'immigration, où il y a des gens qui viennent au Québec et qui veulent garder leurs croyances. Ils veulent avoir leur mot à dire sur des enjeux qui touchent une corde sensible et qui sont protégés par des chartes qui protègent les droits fondamentaux, a-t-il souligné. La question qui reste à trancher devant les tribunaux est donc de savoir si un parent peut soustraire son enfant à certains contenus qu'on considère comme obligatoires sur la base de la liberté religieuse, a-t-il ajouté. Stéphanie Tremblay, qui est professeure agrégée au département de sciences des religions de l'UQAM, ne serait d'ailleurs pas surprise que les recours comme celui de ce père de famille se multiplient dans les prochaines années, au moment où près de 10 000 personnes ont signé à ce jour une pétition en ligne demandant à Québec de supprimer le programme CCQ afin que l'éducation à la sexualité ne soit plus enseignée dans les écoles de la province. Une mobilisation qui préoccupe le cabinet du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. L'enseignement de l'éducation à la sexualité est important dans le parcours de nos enfants. Elle doit être enseignée aux élèves dans un contexte éducatif encadré, comme c'est le cas avec l'école, a indiqué le cabinet par écrit. Sécuriser les parents. Selon deux expertes, Québec pourrait réduire l'inquiétude des parents en comptant sur une campagne d'information qui permettrait de rétablir les faits par rapport à ces cours, qui visent notamment à prévenir les violences sexuelles ainsi que les inégalités et les discriminations liées au sexe et au genre. L'éducation se transforme vite et, depuis une vingtaine d'années, le contenu des programmes, surtout sur la sexualité et l'éducation à la citoyenneté, porte sur des valeurs transmises aux enfants. Ça dérange beaucoup de parents qui sont en faveur d'une autorité familiale et parentale plus ferme sur les enfants et la conduite de leur vie, explique la professeure Stéphanie Tremblay, qui appelle à sécuriser les personnes qui ont des positions différentes. Il y a une espèce de montée du discours qui prône un retour à des valeurs plus traditionnelles, catholiques et religieuses, et je le constate aussi dans les écoles, ce retour à ces valeurs-là, relève pour sa part la formatrice en éducation à la sexualité et autrice du livre « Par les sexes » Maude Pinchot-Major. Dans ce contexte, il y a beaucoup de désinformation qui circule concernant les contenus de ces cours, ajoute l'experte, ce qui montre, selon elle, l'importance de rétablir les faits pour rassurer les parents inquiets. C'était « Quand l'éducation à la sexualité se transporte en cours supérieur », un texte de Zachary Goudreau paru le 14 novembre 2024 dans Le Devoir.